12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Une chorégraphe contemporaine canadienne et un classique de la danse russe. Voici le programme que l'on vous a concocté pour ce débat critique. Nous parlons d'abord de la dernière création de la canadienne Crystal Pite. Ça s'appelle Assembly Hall et c'est au Théâtre de la Ville à Paris. Et puis nous irons à l'Opéra de Paris-Bastille pour un classique, donc le ballet Don Quichotte, chorégraphié par Rudolf Nureyev avec la musique de Ludwig Minkus.
Et on en parle avec vous, Laura Capel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique au New York Times et professeur associé à la Sorbonne Nouvelle. Et on en parle avec vous, Anna Sigalevitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et autrice. Bienvenue à toutes les deux dans les Midis de Culture.
Direction pour commencer, le Théâtre de la Ville à Paris avec la dernière création du tandem canadien Crystal Pite et Jonathan Young, intitulé Assembly Hall.
You know what? We're going to come to the refreshments. It's in the agenda. I'm like, hey, it's from like dairy. We will get there.
Just,
if we start, I think we could settle. I feel like we could settle.
Settling.
Is Bonnie in charge?
So should I put the coffee on?
No. Well, go ahead, Sean.
I'm going to put the coffee on.
Okay, Sean.
Tout commence par ce brouhaha d'une assemblée générale d'associations qui est réunie dans une salle polyvalente à l'anglo-saxonne. Je vous montre le décor. Au fond, un rideau rouge cache une scène de théâtre, tiens, au-dessus duquel trône un panier de basket. Au sol, un parquet bien adapté pour le dribble, mais tout autant pour la danse. Cette première scène de discussion est chorégraphiée par les dialogues. Chaque danseur et danseuse se meuvent alors et s'expriment en doublant, en quelque sorte, la bande-son qui nous livre l'intrigue dans un rythme plutôt soutenu. L'association baptisée Ordre Protecteur et Bienveillant a pour objectif de reconstituer chaque année la fête de la quête. Eh oui, une ancienne coutume médiévale. L'AG est d'ailleurs censé acter la dissolution de cette association, mais quelque chose d'incompréhensible, d'impalpable empêche les adhérents. L'occasion tout de même de très beaux tableaux dansés, d'un travail très fin, des lumières qui accompagnent les mouvements de ces corps désarticulés, quitte à oublier parfois le récit initial. C'était en tout cas mon sentiment pour profiter de la magie. Est-ce que vous avez eu le même sentiment, Laura Capel?
Un petit peu, et c'est vrai qu'il y a toujours une telle anticipation dans l'air quand on retrouve Crystal Pite, qui est quand même un des grands noms de la chorégraphie actuelle, qui nous a donné des spectacles incroyables, y compris Betroffenheit avec Jonathan Young, qui est aussi à la co-mise en scène et écriture avec elle dans Assembly Hall. Ce spectacle était tellement beau sur le deuil, enfin tellement puissant, qu'on attend un petit peu toujours que la magie se reproduise aussi. Là, j'avoue qu'elle m'a un petit peu perdue, en fait, dans cette Assembly Hall, dans cette comme salle des fêtes dans laquelle on retrouve cette distribution, qui forme une assemblée, donc de l'ordre bienveillant et protecteur, qui effectue des reconstitutions de tableaux vivants médiévaux. On sent qu'il s'est passé des choses très complexes entre les personnages, que l'un des personnages qui a peut-être eu un décès, une perte, un personnage qui revient mais qui n'aurait pas vraiment dû être là. Très vite, on se retrouve dans une structure narrative qui mélange un petit peu les niveaux, une espèce de mise en abîme constante où l'un des personnages devient le chevalier sans nom de la quête médiévale, donc qui, dans leur tableau qu'ils reconstituent tous les ans, est un chevalier qui part en quête d'une assemblée abandonnée. Évidemment, métaphore de l'assemblée elle-même devant laquelle on est. C'est à la fois extrêmement bien fait, parce qu'il y a un niveau de savoir-faire dans le travail de Crystal Pite sur le plan physique, qui est très impressionnant. Elle est passée par la compagnie de William Forsythe dans les années 90. Elle a développé, alors elle vient de base classique, elle a développé un travail tout en articulation du corps, très délié, une écriture très fine et qui ici est articulée quasiment constamment à du texte, ce qui veut dire que en fait c'est comme du lip-sync mais corporel. Enfin, les danseurs jouent un texte qui est dit, font semblant de dire, donc font vraiment du lip-sync. Recréer ces sensations-là par le mouvement, ça demande un travail absolument fou. Enfin, vraiment, pour les danseurs, on peut pas louper une note en fait. Enfin, dans une situation comme celle-ci. Pour autant, enfin, en fait, il y a un espèce de manque de résolution dramaturgique où finalement cette assemblée, qu'est-ce qui s'y passe réellement? Enfin, va-t-elle se dissoudre? Va-t-elle dissoute ou non? Est-ce vraiment important au final? Enfin, la quête médiévale elle-même, pareil, on s'y perd dans des méandres. Personnellement, elle m'a laissé un petit peu de marbre au final.
Anna Sigalevitch, l'hybridation entre le théâtre, la danse, on a compris le principe. Est-ce que c'est d'ailleurs le même que dans les deux précédents spectacles auxquels Jonathan Young et Crystal Pite ont collaboré? Est-ce qu'ils poursuivent, voilà, en quelque sorte, sur ce principe-là?
Alors, moi, c'est le premier spectacle que je vois, en fait, avec dans leur collaboration. J'avais vu les deux précédents spectacles de Crystal Pite à l'Opéra de Paris, qui étaient Seasons Canon et Body and Soul. Et donc là, c'est le premier spectacle de danse-théâtre, hein, si on peut l'appeler comme ça. Enfin, il l'appelle comme ça, donc appelons-le comme ça, que je vois au Théâtre de la Ville. Vous avez employé tous les deux un mot qui m'étonne un peu, qui est le mot finesse. Vous avez dit, Nicolas, c'est des tableaux très fins, et Laura a dit, c'est une chorégraphie très fine. Alors vraiment, là, moi, je tombe de ma chaise quand j'entends ça.
Je parlais de la lumière, moi.
Oui, la lumière. Mais
c'était une fois de trop.
Alors, dites-nous pourquoi.
Mais non, mon ressenti.
Dites-nous pourquoi.
Voilà, parce que si j'abonde complètement dans votre sens sur le fait que c'est virtuose, que c'est totalement performatif, que les interprètes sont incroyables, que c'est une partition qui est complètement millimétrée, qui, moi, m'a fait penser, en fait, à des jeux vidéo. Parce que la façon dont se meuvent, c'est comme des personnages d'animation, c'est comme des avatars, en fait. Parce que, voilà, à chaque fois qu'il y a une phrase, elle est accompagnée par des gestes plus ou moins exagérés, ralentis, etc. Et quand on voit des personnages de motion capture, c'est exactement ça, avec le doublage un petit peu exagéré. Donc, on a vraiment l'impression de voir sur la scène du Théâtre de la Ville un jeu vidéo en direct. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a le droit de proposer ça.
Mais il manque de la danse. C'est bien
non,
ça.
C'est pas qu'il manque de la danse. Pour moi, c'est qu'il manque de la vie, il manque de l'humanité, qu'il manque de la finesse, qu'il manque de la construction dramatique, ça je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, Laura, parce que en effet, c'est une succession de tableaux, alors plus virtuoses les uns les autres, on est vraiment dans le show, dans la performance. Sauf que qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qui se construit? Rien du tout. Et qu'est-ce qui vit? Parce que à la rigueur, je vais vous dire, moi, les tableaux que j'ai le plus aimés, c'est les tableaux qui sont complètement abstraits. Il y a un moment en duo entre un personnage qui s'appelle Glenda et un autre, où là, il y a de la danse qui est pure, et là, il y a une forme de fluidité, il y a une forme de legato entre les corps, et il y a une écriture chorégraphique que je trouve plus intéressante. Sinon, franchement, je trouve que c'est une succession de tableaux qui n'ont aucun intérêt, et je dois dire, mon sentiment de solitude au Théâtre de la Ville, avec une salle hyper enthousiaste, quand ça s'est terminé, les gens ont applaudi, ont crié bravo, moi j'étais sidérée en fait, parce que je ne comprends pas l'intérêt. Autre chose dont je dois parler, ça s'appelle de la danse-théâtre. On est au Théâtre de la Ville, on ne peut pas ne pas penser à Pina Bausch. Impossible. En plus, il y a quand même des similitudes avec ce côté salle de bal qui peut faire penser par exemple à Contact-Hoff, avec cette danseuse Glenda qui a les cheveux complètement lâchés, qui est un peu en robe de princesse, et cette assemblée de 8 personnes un peu paumées qui se retrouvent là, on ne sait pas trop ce qu'ils font là ensemble. Bon, sauf que c'est le contraire en fait de Pina Bausch, où il y a de la sensibilité, de l'humanité, de la poésie. Là, pour moi, tout est écrit, surécrit, souligné, efficace. Pour moi, c'est le contraire d'un geste artistique qui me touche. Voilà, c'est très personnel. Je reste complètement à la porte et du propos et même de la forme, aussi virtuose soit-elle.
Alors pour moi, il y a eu deux parties dans ce spectacle. Cette première partie, effectivement, où il y a tout ce doublage, tout ce son, ce dialogue enregistré qui est diffusé et qui donc impose un rythme très très important et très très rapide aux interprètes qui sont sur scène. Et puis une deuxième partie, pour moi, où il y a vraiment un peu plus de danse, notamment avec Doug Letteren qui fait une très belle performance presque de danse classique et qui là rompt totalement avec ce qui nous est proposé depuis le début du spectacle et même avec la suite, Laura Gappel.
Absolument. Je dois dire que je trouve la comparaison avec Pina Bausch un petit peu injuste, en fait. Enfin, c'est-à-dire, on est pour moi, dans des esthétiques, dans des héritages culturels totalement différents. Enfin,
je dis qu'on peut pas ne pas y penser. Parce que
justement, j'y pense pas du tout en voyant ça. Parce que je vois quelque chose qui vient là d'une tradition anglo-saxonne beaucoup plus, où au contraire, la virtuosité du mouvement, le fait de surligner le geste, est un attendu, presque. En fait, fait partie de cette culture-là, que nous, on a moins. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu une barrière culturelle. Ce spectacle, par exemple, a eu un succès fou à Londres. Je pense qu'il y a un petit peu une barrière culturelle. Même ce contexte de la salle de fête, avec le quorum de l'Assemblée Générale, il y a un côté un petit peu anglo-saxon dans les prémices, enfin, où je pense que ça nous laisse un petit peu à distance, nous, de notre côté. Après, je suis absolument d'accord sur le fait qu'elle tire des fils dramaturgiques qui, à mon sens, ne sont jamais complètement aboutis. Mmh. C'est-à-dire qu'on retrouve cette question un petit peu du deuil, qu'elle avait si bien traitée donc, dans Betrothenite, parce que avec cette idée que donc, Dave, le personnage un petit peu en trop, a disparu sans doute, on a un pas de deux très très beau donc avec Glenda, mmh. où on a l'impression que là, c'est ça qui est en jeu en fait. C'est le fait que quelqu'un a été perdu, c'est ce sentiment-là qui est remis en jeu. Et en même temps, après, on repasse complètement à autre chose, on revient à ce côté plus trivial de l'échange entre l'assemblée, de qu'est-ce qui va se passer. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance.
C'est répétitif en plus.
C'est assez répétitif dans la structure et c'est jamais réellement résolu. Alors, c'est un choix, certes. Personnellement, c'est un choix qui me laisse effectivement un petit peu en suspens parce que quand on voit la qualité de ce qu'elle est capable de faire, enfin, la qualité de ce que les danseurs font aussi, enfin, vraiment, encore une fois, enfin, le travail physique est d'une précision incroyable, c'est dommage de ne pas aller plus loin.
Est-ce qu'on peut peut-être décrire ce qu'ils font exactement? Quel type de danse on a? On a des formes de. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la danse, donc vous allez effectivement m'aider. On est sur de la danse contemporaine, on est sur quel type de danse? Laura Gabelle et Anna ensuite.
Bon, vous vous aventurez sur un terrain complexe, là. Oui. Justement, parce qu'en fait, le terme contemporain est pas... Enfin, à la fois, bien sûr, elle s'en revendique, et je pense qu'on peut le revendiquer pour ce spectacle. Il me semble pas très utile, en fait, pour un travail comme celui de Crystal Pite, parce que d'abord, ça veut dire mille choses, la danse contemporaine, honnêtement, aujourd'hui. Et ensuite, chez elle, on voit vraiment une forme d'hybridation de corps qui ont été traversés dans son histoire par la technique classique, donc avec cette manière de tirer les lignes du corps extrêmement loin, d'aller très loin dans les lignes qui sont tracées sur scène. Et en même temps, elle a traversé le travail d'improvisation, de foresight à partir de cette base-là, des formes plus contemporaines. Elle travaille avec des danseurs venus de techniques différentes. Donc là, on est sur un mode où on sent le mouvement tiré dans des directions très différentes, mais dans un équilibre assez subtil, enfin, où le geste va aller accompagner un mot, un geste de manière très rapide, avant de se refermer. Il y a une dynamique très forte aussi dans le corps, qui est un petit peu difficile à décrire.
Les corps se tirent, se poussent, s'effondrent, se manipulent. Moi, je pense à cette scène où l'un des danseurs devient, avec l'armure, une forme de marionnette aussi.
De marionnette, le spectacle commence même d'ailleurs comme ça. Hein. Ça commence parce qu'il y a cette assemblée, mais au tout départ... Il y a un homme qui est au sol, sur une chaise renversée, il est immobile, et puis il y a une jeune femme qui arrive et qui commence à le manipuler, et le corps s'articule petit à petit, et il prend vie. Et ça, c'est sûr qu'il y a un travail sur ça, sur l'humanisation, la déshumanisation. En fait, c'est ça, je pense, le propos du spectacle. C'est est-ce qu'on peut encore rêver? Est-ce qu'on est encore... Ça s'appelle la Quest Fest, donc voilà, c'est la fête de la quête. Avec cette recherche en effet d'épique, cette recherche de grandeur, cette recherche de romantisme et tout ce que le corps aussi peut générer de ça, donc avec ce langage classique qui est un langage ancien, qui est un langage articulé de façon artificielle, extrême, hyper travaillée, et comment on le travaille aujourd'hui. En fait, je pense que c'est un spectacle. Où le fond est dans la forme. Voilà. Et c'est pourquoi pas, hein, mais pour moi, c'est articulé de façon artificielle.
Mais ça provoque des choses, vous l'avez dit, le spectacle plaît, Crystal Pite connaît un grand succès, alors pas simplement avec ce spectacle-là, mais depuis de nombreuses années. Elle était d'ailleurs le week-end dernier aussi au théâtre des Champs-Élysées avec le Ballet National Norvégien. Qu'est-ce qui explique ce succès? Qu'est-ce qui explique... Voilà.
Oh bah parce qu'il y a un savoir-faire qui est incontestable, il y a un sens des ensembles qui est assez remarquable, une fluidité, une façon d'occuper l'espace. Et puis, c'est de la belle danse. C'est de la danse qui est aussi, je pense, plaisante à danser pour les danseurs parce que les mouvements sont larges, sont amples, c'est payant. Il y a quelque chose d'attractif et de très, très efficace. Alors, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de béjard du 21e siècle, un petit peu dans ce... Peut-être que Laura va me contredire encore. Mais pour moi, il y a ça. Il y a quelque chose de populaire, d'attractif, qui fonctionne avec de la grande musique et des belles envolées. Donc, on en prend plein les mirettes, quoi, en voyant le spectacle.
Laura Gabelle, pour conclure.
Mais c'est vrai. Mais je pense qu'on a un petit peu de mal avec ça en France, avec cette idée que, justement, elle nous en met plein la vue. Et en même temps, c'est génial. Enfin, c'est-à-dire, ce qu'elle a fait pour... Pas forcément là, dans ce spectacle, mais ce qu'elle a fait à l'Opéra de Paris de Seasons Canon. Enfin, la manière dont elle mobilisait...
Moi, j'ai pas adoré The Seasons Canon. Hein,
40-50 danseurs. Vraiment, l'artisanat chorégraphique qu'il y a derrière. J'ai un respect immense pour cette femme, en fait. Enfin, pour ce qu'elle a développé.
So, this is it.
Assembly Hall, mais Laura Capel le dit beaucoup mieux que moi, avec l'accent, je n'oserais pas me comparer, de Crystal Pate et Jonathan Young. C'est jusqu'au 18 avril au Théâtre de la Ville.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent d'un classique à l'Opéra Bastille, le ballet Don Quichotte de Rudolf Nureyev.
Dire que la musique de Ludwig Minkus est entraînante serait peut-être un peu faible. Elle nous embarque, en tout cas dans cette lecture chorégraphique du roman de Cervantes, écrit au XVIIe siècle. On y retrouve Don Quichotte, cet idéaliste qui aime tant les livres et qui décide donc de partir sur les routes de l'Espagne avec son fidèle et naïf serviteur Sancho Panza. Dans cette version du chorégraphe russe Nureyev, montée à l'Opéra de Vienne en 1966 pour la première fois et qui est donc reprise ces jours-ci à l'Opéra de Paris, le duo rencontre donc Kitri et Basilio, ces deux amants qui tentent tout pour se retrouver malgré les réticences et les résistances du père de Kitri. Un ballet adapté dans le ton de celui créé par Marius Petipa, le premier à avoir popularisé au XIXe siècle l'histoire de ces amours contrariés avec humour et vigueur. Durant un mois, l'Opéra Paris reprend donc cette création, Anna Sigalevitch. Don Quichotte, c'est quoi? C'est une sorte de passage obligé pour les danseurs de l'opéra et les étoiles. C'est le deuxième ballet le plus programmé à l'Opéra de Paris.
Oui, c'est un passage obligé, totalement. C'est un exercice technique complètement dément et aussi d'incarnation. Alors là, je vais vous contredire, vous voyez, parce que on en prend plein les mirettes. Complètement, là aussi, complètement. Mais là, j'adore, parce que c'est merveilleux la façon dont c'est fait, parce que la chorégraphie de Nureyev est géniale, qu'on en prend plein la vue, mais toujours avec esprit, avec intelligence, avec subtilité. Il y a une spiritualité. Nureyev disait que Don Quichotte, ça doit pétiller comme du champagne. Et en effet, quand il y a...
Non, mais on est c'est en ça effervescence... qui vous plaît.
Non, mais on est en effervescence de bout en bout. C'est un ballet qui est en effet extraordinairement exigeant pour les danseurs. Il faut savoir quand même que, pour vous expliquer un petit peu la façon dont Nureyev a retravaillé les grands classiques pour l'Opéra de Paris, il a été le directeur de la compagnie, il a beaucoup refait des grands classiques, en rajoutant des passe-partout, en complexifiant à la fois techniquement et même psychologiquement les personnages. De la plupart des grands ballets. Donc c'est très compliqué, c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, Don Quichotte, il y a souvent des étoiles qui sont nommées. Hein. Il y a des nominations qui se font souvent sur Don Quichotte parce qu'il faut se farcir quand même les trois actes. Hein, parce que c'est du début, du premier acte jusqu'à la fin du troisième acte. Il y a des variations plus pyrotechniques les unes que les autres. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ces rôles géniaux pour les étoiles, mais il y a aussi des très beaux rôles autour.
Des seconds rôles, oui.
Des seconds rôles. Et le corps de ballet. Ça, c'est très important dans le plaisir de la soirée. Parce que c'est Clotilde Vaillé qui a été longtemps maître de ballet associée à la direction de la danse, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui, elle était dans la compagnie au moment de Nureyev et qui a beaucoup transmis le savoir-faire de cette chorégraphie de Nureyev, qui disait, pour Nureyev, la star, en fait, dans une compagnie, c'est le corps de ballet, parce qu'il adorait le corps de ballet et il les sollicite énormément. Et en effet, la façon dont la scène est animée pour le corps de ballet, c'est toujours surprenant, c'est toujours inattendu, c'est toujours pétillant. Et donc, on est en éveil, vraiment, pendant 2h50. Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. J'ai pris un plaisir fou. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, je dois dire. Et j'ai été ravie de cette soirée.
Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été joué à Paris, à l'Opéra de Paris. Il était donc très attendu. Laura Capel, est-ce que le champagne a perdu de ses bulles?
Un tout petit peu pour moi, alors. Bon, c'est vrai que Don Quichotte en met plein les mirettes, c'est l'objectif. Mais en fait, cette production, pour moi, n'en met presque pas assez plein les mirettes, en fait, enfin, par rapport à d'autres Don Quichotte internationaux. Là, c'est peut-être l'expérience de l'avoir aussi beaucoup vu en Russie, de mon côté. C'est un ballet qui est dansé par les Russes comme un exercice absolument surréaliste de virtuosité. Et le ballet de l'Opéra de Paris a toujours eu un rapport un peu complexe, pour moi, à Don Quichotte. Déjà, c'est un ballet qui ne danse que depuis 1981, en fait. Donc, c'est relativement récent pour un ballet qui date de 1869, donc qui a peu circulé au début, de toute façon. C'est un ballet qu'il danse donc dans une version de Nureyev. Personnellement, moi, j'ai quelques réserves sur la manière dont Nourieff traite Don Quichotte et notamment sur la quantité de fioritures qu'il ajoute pour certains solistes qui, pour moi, sont totalement inutiles. Enfin, c'est-à-dire, il rajoute notamment des variations au personnage de Basilio, le personnage principal, qui, en fait, ne servent pas tellement, pour moi, le ballet parce qu'elles sont trop dures. En fait, enfin, elles sont vraiment, objectivement, trop difficiles.
Ah oui, c'est
et c'est pas agréable, parce qu'en fait, on voit la difficulté, souvent, avec les danseurs, pour moi. C'est-à-dire, on voit que les atterrissages sont un peu complexes, on voit que, voilà. Or, un des plaisirs du ballet classique, c'est aussi l'illusion de la facilité, en fait. Et pour moi, on l'a pas tout à fait dans ce Don Quichotte, qui a un petit peu vieilli. Je dois dire quand même que pour moi, l'Opéra de Paris le danse mieux là, sur cette reprise, qu'il y a une dizaine d'années. Où il y a eu un moment où il n'avait pas la génération vraiment pour ses rôles virtuoses. Là, on a des jeunes qui sont là, on a des distributions qui sont tout à fait au niveau, à mon sens. Mais il y a une question derrière pour moi de que faire de cet héritage de Nourieff, comment aussi commencer à le retravailler peut-être un jour, à se poser des questions dessus.
Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut changer dans une chorégraphie ? Nourieff est mort dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on peut changer justement à une création qui est normalement figée dans le temps pour la rendre plus actuelle ? Anna Sigalevitch, qu'est-ce qui pourrait... Alors, vous, rien.
On peut tout faire. On peut complètement faire évoluer les variations. On peut changer, on peut intervertir certaines variations avec d'autres, on peut simplifier, et puis on peut réécrire tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est des partitions, il y a un côté un petit peu palimpseste en fait avec les grands classiques. Alors sur Don Quichotte, ça a été moins fait, mais on voit comme des ballets comme le Lac des Cygnes, combien de fois ça a été chorégraphié, recorégraphié de façon la plus traditionnelle à la façon la plus contemporaine. Gisèle aussi, je pense à un grand ballet que Matzek quasiment sur tous les grands ballets en fait classiques, on peut complètement réécrire et retisser de nouveaux films.
Mais on dénature pas la chorégraphie de Nourieff dans ce cas-là.
Ça devient plus la chorégraphie de Nourieff.
Voilà, je veux dire,
de toute façon, c'est Nourieff d'après Marius Petipas. Oui. Après, il pourra y avoir un nouveau chorégraphe qui refait son Don Quichotte d'après Marius Petipas ou pas. D'ailleurs,
mais cette chorégraphie de Nourieff, pour vous, elle est figée et comment faire ?
En fait, il y a des questions après de transmission. C'est-à-dire que là, en restant dans le cadre de la production de Nourieff, on pourrait redonner de la vie aux mimes, retravailler certaines scènes pour qu'elles soient simplement plus vivantes autour de la grande technique. Il y a plein de scènes avec donc Don Quichotte et Sancho Panza qui ne sont pas du tout les personnages principaux de cette version. Le titre est complètement mensonger hein, dans ce ballet, qui sont des personnages de mimes comiques, principalement un petit peu plus tragiques ou mélancoliques par moments. Ou bon, on a l'impression que on le fait parce que c'est là, en fait. Enfin, parfois dans cette production, alors que y aurait possibilité d'aller aussi retravailler, redonner de la vie à certaines scènes de mime. Pour moi, à mes yeux. Après, il y a aussi l'option de effectivement faire de nouvelles productions, et c'est une question que l'Opéra de Paris ne s'est pas beaucoup posée ces 20-30 dernières années parce qu'ils ont ce répertoire Nourieff,
oui, qui écrase un peu tout, quoi.
Qui a été constitué comme le socle classique du répertoire de l'Opéra de Paris, alors que c'est ultra récent en fait. Ces productions datent des années 80. Enfin, l'histoire de l'Opéra de Paris, ce n'est pas que Nourieff en fait. Donc la question se pose pour une prod comme Don Quichotte ou le Lac des Cygnes ou autre. Est-ce qu'un jour on refait de nouvelles versions classiques parce que ce sont des œuvres trouées en fait. Enfin, ce qu'on voit là, c'est un patchwork de Nourieff, Petipas et beaucoup aussi Alexandre Gorsky qui avait retravaillé le ballet au début du XXe siècle. Donc ça, ce type de mélange-là, c'est propre vraiment au ballet classique, aux productions du XIXe siècle. C'est possible de le retravailler avec de nouveaux maîtres de ballet qui, comme Nourieff, reprendraient ses œuvres.
En tout cas, si Laura Capel nous dit que cette version-là a un peu vieilli, vous, Anna Sigalevitch, est-ce que vous pensez aussi que les interprètes, cette nouvelle génération qui est sur la scène de l'Opéra de Paris aujourd'hui, est digne de cette chorégraphie et lui redonne du souffle?
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé tous les interprètes. Alors, on a vu deux distributions différentes.
Oui, vous n'avez pas vu les mêmes. Ouais.
Non, tout à fait. Moi, j'ai vu avec Anna O'Neill en Kitri et ça devait être Germain Louvet, mais il était malade. Donc, c'est Paul Marc qui l'a remplacé, que j'ai trouvé excellent vraiment tous les deux, parce que justement, plein de vie, plein d'esprit, moderne dans leur façon de danser et à assurer ces variations inassurables. Donc j'ai trouvé ça très bien. Je voudrais dire juste un mot de la musique aussi. Parce que Laura, vous disiez que vous l'avez beaucoup vu à l'étranger, notamment en Russie. Il y a une tradition en Russie où la façon dont on accompagne les ballets, c'est beaucoup plus vivant qu'en France souvent. Et là, je trouve que le chef était vraiment très bien. Où j'ai pas eu le sentiment, comme parfois à l'Opéra de Paris, d'un accompagnement un peu éteint, mais d'un chef et d'un orchestre qui participaient pleinement à l'action, parce qu'il vient du Mariinsky justement.
Justement, il est passé par le Mariinsky effectivement, donc on le sent.
Ça change, hein, on le sent. Hein.
Oui, ouais. C'est vrai. Même si les tempi restent un peu lents, mais ça c'est une habitude française aussi sur ce ballet de le prendre de manière beaucoup sur les équilibres, d'étirer le le temps, alors même que tout est dans le dynamisme, en fait, dans Don Quichotte. Je voulais juste dire un mot de moi, la distribution que j'ai vue, qui était une distribution de jeunes, en fait. Enfin, donc, le premier grand rôle d'une première danseuse qui s'appelle Roxane Stoyanov.
Une prise de rôle, oui. Par...
Voilà, c'était une prise de rôle. C'est aussi son premier ballet en trois actes. Quel travail. Enfin, il y a de la relève hein, à l'Opéra de Paris à l'heure actuelle. Roxane Stoyanov, qui pourtant était sur un contre-emploi un petit peu parce qu'elle est assez grande, plutôt un signe naturel qu'une quitterie, qui fait un travail d'une autorité, d'un style, enfin, qui emmène le spectateur vraiment comme une ballerine. Très grand plaisir de découvrir ça, en sachant qu'il y a aussi des distributions d'étoiles exceptionnelles en ce moment. Valentine Colasanto a été nommée sur ce rôle. Paul Marc était aussi formidable. Voilà, il y a beaucoup à voir.
Est-ce qu'on perturbe les visiteurs, les spectateurs de l'Opéra de Paris si on propose justement quelque chose de, voilà, de nouveau? Si on réfléchit à comment est-ce qu'on peut re-chorégraphier ce type de ballet, Anna Sigalevitch, où je l'ai dit, c'est attendu depuis 2 ans, alors que c'est joué depuis très longtemps ici et que c'est le plus programmé.
Moi, je pense qu'on peut faire les deux, en fait. Je pense que cette version de Nouriev peut exister et que, bah, pour Gisèle, il y a les deux. Hein. Il y a de temps en temps la version de Matzek à l'Opéra de Paris, puis de temps en temps la version classique, traditionnelle. Tout est possible. Enfin, on ne se pose pas la question sur l'opéra où, à chaque fois qu'il y a un nouveau metteur en scène qui arrive, il donne sa vision de l'œuvre. Hein.
Puis surtout, je pense qu'il faut traiter ces grands classiques comme ça. Mmh. Sinon, en fait, ils se fossilisent. Mmh. Il faut les traiter comme des œuvres vivantes où on y retourne, on voit, on apporte un regard critique aussi sur ces spectacles pour voir s'il faut retravailler des choses pour qu'ils restent vivants, en fait, en scène.
Et ben voilà, on va y aller donc voir Don Quichotte de Rudolf Nureyev. C'est jusqu'au 24 avril à l'Opéra Bastille. Et puis, je signale aussi que le Lac des Cygnes se jouera à l'Opéra Bastille également. Ce sera au mois de juin. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, La Belle au Bois dormant qui sera, elle, revisitée un tout petit peu. Ce sera l'année prochaine. Les places seront en vente dès la mi-octobre. Merci à toutes les deux, Anna Sigalevitch, Laura Capel. Laura, je signale l'apparition de votre prochain livre le 23 mai prochain. Ça s'appelle Créer des ballets au 21e siècle aux éditions CNRS. Toutes les références, c'est sur le site de France Culture, bien sûr.